Vous écoutez France Culture. Tout de suite, le journal Antoine Marette. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Un mea culpa, un peu de fermeté, des reculs, mais pas de changement de cap. L'intervention d'Emmanuel Macron hier a-t-elle répondu aux attentes des Gilets jaunes? C'est ce que nous tenterons de décrypter dans ce journal. Notre invité sera le directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, Éric Heyer.
Emmanuel Macron qui n'a pas dit un mot sur les lycéens alors qu'ils ont lancé aujourd'hui leur mardi noir. Ce matin, on compte 170 lycées perturbés, dont une soixantaine bloqués.
Dans l'actualité internationale, la tournée de Theresa May auprès des dirigeants européens, la première ministre britannique sollicite aujourd'hui l'aide notamment d'Angela Merkel dans le but d'aménager l'accord du Brexit.
Et puis dans votre journal également, Antoine Marette, un assouplissement peut-être du côté de la dictature en Thaïlande. La junte militaire au pouvoir depuis maintenant plus de 4 ans a levé l'interdiction de mener des campagnes politiques. Cela faisait des mois que la classe politique réclamait cette mesure alors que des élections sont promises pour début 2019.
Midi 55, seconde partie de la Grande Table avec vous Olivia Gesbert.
Le mouvement des Gilets jaunes est-il comparable à une ubérisation de la contestation? On en parlera avec notre invité, le professeur à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux et des questions numériques, Fabrice et Paul Bois.
À tout à l'heure. Plus de 21 millions de personnes ont suivi l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron hier soir à 20h, quasiment un Français sur trois. C'est dire à quel point la réponse du chef de l'État aux Gilets jaunes était attendue. Une intervention solennelle d'une douzaine de minutes mettant un terme à 10 jours de mutisme avec un mea culpa, un peu de fermeté et des annonces concrètes. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour Antoine.
On voyait dans cette intervention un possible tournant social du quinquennat. Alors il y a certes des reculs, mais pas de changement de cap.
Non, il y a un changement de ton. Le chef de l'État en a fait beaucoup dans le registre de l'humilité et de la compassion, parlant notamment de ces mères courage qui élèvent seules leurs enfants et reconnaissant une part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer avec ce mouvement des Gilets jaunes. Il a aussi fait d'importantes concessions financières pour répondre aux attentes qui se sont exprimées. Hausse du SMIC à travers la hausse de la prime d'activité, renoncement à l'augmentation de la CSG pour les titres retraite et défiscalisation des heures supplémentaires. Il y en a pour environ 12 milliards d'euros. Mais il n'y a effectivement pas de changement de cap initié par Emmanuel Macron. Il a même rappelé que son diagnostic était le bon, qu'il avait pressenti les fractures de la société française et la crise que ça pouvait déclencher, que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il s'était présenté au suffrage des Français. Tout juste reconnaît-il que les efforts demandés aux retraités modestes avaient été trop importants et que le volet social de sa politique avait été mis en œuvre trop lentement. Mais il n'est pas revenu sur, par exemple, la non-indexation des pensions de retraite sur l'inflation. Et ce ne sont pas les entreprises qui sont mises à contribution. Elles sont simplement incitées à verser une prime de fin d'année à leurs salariés, si elles en ont les moyens. Emmanuel Macron fait donc quelques concessions, mais reste sur son projet de redressement de l'économie française initié depuis 18 mois. Il y a potentiellement deux écueils à cela. D'abord, une perte de crédibilité au niveau européen. On devrait à nouveau dépasser les 3% de déficit et ça ne manquera pas de faire bondir nos voisins italiens. Et ensuite, il n'est pas certain que ça calme la contestation, étant donné que ce mouvement des Gilets jaunes n'est pas la résultante de revendications catégorielles, ou pas seulement. C'est avant tout l'expression d'une colère de la part d'une partie de la population qui se sentait exclue depuis de nombreuses années et qui retrouve une forme de dignité à travers ce mouvement.
Merci à vous Stéphane Robert. Parmi les mesures annoncées par le chef de l'État, on retiendra notamment la baisse de la CSG pour les retraités ayant une pension inférieure à 2000 euros par mois, les heures supplémentaires défiscalisées, 100 euros de plus pour le SMIC sans coût pour l'employeur. Des mesures qui vont donc être financées par un État déjà très déficitaire. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Antoine Marette.
Oui, Emmanuel Macron va-t-il trouver tout cet argent?
Vous l'avez dit, hein, autant de mesures qui vont coûter entre 8 et 11 milliards d'euros, sans compter l'annulation de la taxe carbone sur le diesel et l'essence qui était prévue le 1er janvier, c'était 4 milliards d'euros. Le gouvernement va donc devoir ressortir sa calculatrice alors qu'il avait déjà bouclé son budget pour 2019. Hier soir, Emmanuel Macron a lancé plusieurs pistes. Le président va demander des efforts aux grandes entreprises françaises, des entreprises qui ne sont pas toujours très bon élève en termes de fiscalité. En s'internationalisant de plus en plus, eh bien, elles ont tendance à payer de moins en moins d'impôts. C'est le cas de Renault, par exemple, qui a son siège social et fiscal à Amsterdam, aux Pays-Bas. On peut aussi parler de Schneider, voire d'Airbus. Le président souhaite aussi taxer les GAFA, ces géants du web, comme Amazon et Google, qui ne payent zéro impôt en France. Pour autant, pas question pour le chef de l'État de remettre en place l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui représente un manque à gagner pour les caisses de l'État de 5 milliards d'euros. Enfin, on peut également s'étonner de voir que le gouvernement, qui dit pourtant lutter contre la fraude fiscale, qui représente en moyenne 80 milliards d'euros chaque année, va alléger, suite à un vote récent au Sénat, l'exit tax pour les Français qui partent à l'étranger pour payer moins d'impôts. Édouard Philippe doit apporter des précisions sur le financement de ces mesures dans la journée.
Merci à Kim Kasmi. Avec nous en direct et en studio, Éric Heyer. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Ces mesures annoncées vont avoir un coût. Comment les financer ?
Non, mais c'est la question effectivement qui coûte très cher aujourd'hui. C'est soit vous considérez que finalement on peut laisser filer le déficit. Vous voyez, Emmanuel Macron a parlé d'état d'urgence sociale, et donc quand vous êtes en état d'urgence économique et sociale, vous pouvez avoir une petite dérive de vos déficits, et donc on risque de passer la barre des 3%. Alors attention, parce que 2019, dans les 3%, il y a le 0,9 de bascule du CICE en cotisation, donc ça, on considère ça comme un one-off, et donc la Commission européenne pourrait très bien nous l'enlever, dire en fait, aujourd'hui au lieu du 2,8, vous seriez à 1,9, donc vous avez un peu de marge pour être en dessous des 3%. Je pense que le problème, il n'est pas en termes de déficit, parce que je pense qu'on peut effectivement user d'un certain nombre d'arguments pour passer au-dessus des 3% pour 2019, c'est plutôt sur les efforts structurels. On s'est engagé vis-à-vis de la Commission de réduire notre déficit structurel, c'est-à-dire soit en augmentant les impôts, soit en faisant des économies sur la dépense publique. Alors on s'est plutôt engagé sur la deuxième voie. Et là, aujourd'hui, avec les annonces faites, au lieu de faire un effort structurel, donc réduire le déficit structurel, les annonces qui sont faites aujourd'hui, ça va augmenter ce déficit structurel. Et donc c'est surtout cela que le gouvernement et Emmanuel Macron devront essayer de plaider vis-à-vis de la Commission européenne.
Question de Hakim Kasmi du service économique de France Culture.
Alors hier, aujourd'hui, on voit bien, l'équation est compliquée. La Commission européenne de l'autre, une croissance qui n'atteint pas les résultats qu'on espérait pour la fin de l'année. On sait aussi que les commerçants, les grands magasins vont perdre beaucoup d'argent, ils vont détruire les emplois suite à ces manifestations le samedi. Du coup, comment faire alors que la France a là des taux de croissance les plus faibles d'Europe par rapport aux pays qui ont le plus gros budget ?
Alors, bon, il faut, c'est vrai qu'on a un ministre de l'économie qui a parlé de catastrophe pour l'économie. Bon, il s'est repris le jour suivant en disant que ça va coûter 0,1 point de PIB. Donc, effectivement, vous voyez, c'est pas une catastrophe non plus. 0,1 point de PIB, c'est dommage. Quand on n'a pas beaucoup de croissance, il faut essayer de garder les peu de croissance que l'on a. Mais vous voyez, aujourd'hui, l'enjeu, c'est plutôt 0,1 point de croissance. Mais il y a tout de même, effectivement, un ralentissement mondial. Et donc, du coup, un ralentissement de l'économie française qui va de pair. Et donc, on a beaucoup de mal à réduire le chômage. Et donc aujourd'hui, on peut aussi s'interroger sur est-ce qu'une politique un peu plus équilibrée entre l'offre et la demande serait pas mieux adaptée à notre contexte conjoncturel.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que au lieu de faire systématiquement une politique qui va dans la compétitivité coût, c'est-à-dire on baisse les salaires et on aide les entreprises, avoir une politique un peu plus équilibrée avec également le pouvoir d'achat et la consommation en interne et l'investissement interne, c'est-à-dire faire à la fois des politiques de croissance interne et externe, permettrait sans doute d'avoir une croissance qui serait un peu mieux équilibrée et qui serait finalement moins dans la guerre commerciale. Commercial qui est en fait aujourd'hui l'élément le plus grand en termes d'incertitude, c'est-à-dire que si on se lance dans ces politiques de désinflation compétitive et donc de guerre commerciale, on peut avoir un franc ralentissement du commerce mondial à l'avenir.
Alors on le voit aujourd'hui, ces mesures, elles vont beaucoup cibler les bas salaires, notamment ceux qui touchent le SMIC, mais quid des classes moyennes, celles qui touchent juste un peu plus et qui très souvent se retrouvent à devoir payer les impôts, la cantine pour les enfants sans aide, par exemple comme la bourse. Ce sont aussi ces classes-là qui sont en alerte aujourd'hui.
C'est juste. Alors, pour ces classes effectivement moyennes, au-dessus du SMIC, il y a la défiscalisation des heures supplémentaires. Effectivement, je pense que c'est une mesure qui était ciblée pour ce type de personnes, parce que une heure supplémentaire, c'est payé 1,3 fois, 1,4 fois le SMIC. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette classe. Alors, je pense pas que ce soit une bonne idée de défiscaliser les heures supplémentaires, parce que ça, effectivement, ça donne un peu de pouvoir d'achat à ces ménages-là, mais au détriment des autres. Donc, je crois pas que ça soit un jeu qui soit satisfaisant. Mais effectivement, la grande différence, c'est que on parle du SMIC, mais en fait, c'est pas le salaire, c'est pas le SMIC qui est augmenté. Vous voyez, quand vous augmentez le SMIC, effectivement, il y a un effet de diffusion dans les autres, sur les autres salaires, et ça touche 9 millions de personnes. Vous voyez, vous avez 1,7 million de personnes au SMIC, mais une augmentation du SMIC, ça touche 9 millions de personnes, parce qu'il y a beaucoup de salaires qui sont indexés sur ce SMIC-là, et donc, du coup, il y a un effet de diffusion dans l'ensemble de l'économie, alors que là, quand vous jouez sur la prime d'activité, ce que va faire le gouvernement, là, vous ciblez vraiment que des personnes au niveau du SMIC, et il n'y a pas d'effet de diffusion. Et donc, c'est sans doute ça le gros manque de ces mesures, c'est finalement toucher un plus grand nombre de personnes, ce qui aurait été le cas si on avait fait le SMIC direct, le salaire minimum, et pas la prime d'activité, mais on aurait pu penser avancer la taxe d'habitation, admettons, et de le faire sur 2 ans ou de 3 ans, ça aurait touché un plus grand nombre de personnes.
Alors, Emmanuel Macron appelle aujourd'hui aux entreprises, leur demandant de faire plus d'efforts, notamment les grandes. Il veut reporter, par exemple, le CICE, ce qui représente 1 milliard d'euros. Ah. Selon vous, elle aussi, elle doit jouer le jeu, d'autant qu'on sait que ces grandes entreprises ont tendance à partir de plus en plus à l'étranger pour payer moins d'impôts. Il y a Renault, qui est à Amsterdam, par exemple, pour les impôts.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est une piste, effectivement. C'est une piste de dire que les prélèvements obligatoires aujourd'hui sont certes à des niveaux extrêmement élevés, mais très mal répartis. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est essentiellement les ménages des classes plutôt supérieures et les entreprises de taille un peu intermédiaire qui payent ces prélèvements obligatoires, parce qu'à la fois les ménages modestes ou certaines entreprises ne les payent pas, et notamment les entreprises de grande taille. Et donc, il faudrait effectivement que ce prélèvement obligatoire, sans les augmenter, soit un peu mieux réparti entre les catégories, et notamment les grandes entreprises devraient participer beaucoup plus que ce qu'elles le font au financement de notre société.
Merci à vous, Éric Heyer, d'avoir accepté notre invitation dans le journal de France Culture. Et intéressons-nous maintenant plus particulièrement aux retraités. On l'a entendu, Emmanuel Macron a promis une baisse de CSG pour les pensions inférieures à 2000 euros. Alors, comment réagissent les retraités à cette annonce? On retrouve en direct Thibault Lefèvre. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Vous vous trouvez à Sainte-Foy-la-Grande dans le sud-ouest de la France et les retraités que vous avez rencontrés sont plutôt satisfaits.
Oui, des retraités globalement satisfaits du geste d'Emmanuel Macron et qui ont déjà fait leur petit calcul. Comme Huguette, elle a 91 ans, elle touche 980 euros de pension par mois. Elle se promène en déambulateur aidée par sa fille Liliane. Et avec l'annulation de l'augmentation de la CSG, elle devrait récupérer une dizaine d'euros par mois.
10 euros par mois, ça fait gros. Ça fait 120 dans l'année.
Pour vous, c'est important ces 10 euros?
Ah ben bien sûr, hein. Plus on en a, mieux c'est. Elle est locataire, il faut qu'elle paye son loyer, tout et tout. Hein.
Une mesure donc conséquente pour les petites retraites, mais évidemment plus anecdotique pour les pensions moyennes. Disons ces retraites juste en dessous du plafond des 2000 euros par mois déterminé par Emmanuel Macron. C'est le cas de Jean-Jacques, retraité indépendant, 1800 euros de pension.
C'est un geste, ça change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est le geste, la volonté de vouloir faire et de faire arranger les choses. C'est surtout ça qu'il faut voir. Et derrière, il y aura autre chose. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde s'y retrouve.
Et puis, il y a les grosses retraites, comme celle de François-Marie, 66 ans. C'est un ancien notaire. Il touche 3200 euros par mois. Il n'est évidemment pas concerné par la réforme. Et pourtant, la qualité de vie des autres retraités l'inquiète.
Jusqu'à 2000 euros, je veux bien. Mais quand vous savez qu'un EHPAD coûte plus de 2000 euros, c'est pas suffisant. Vous connaissez le montant des EHPAD? Allez dans un EHPAD, demandez le montant de l'EHPAD, même un EHPAD public. Et ceux qui sont en limite, ce n'est pas suffisant.
Bien, donc, mais peut mieux faire. Ce qui est étonnant, Antoine, c'est qu'en recueillant ce matin la parole de tous ces retraités au niveau de vie bien différent, eh bien, on remarque qu'ils ont tous un point commun, c'est qu'ils expriment de la bienveillance vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes.
Merci à vous, Thibault Lefèvre. Merci également à Jérémy Thuil, à la technique. Et dans son allocution hier, Emmanuel Macron n'a pas dit un mot sur les lycéens, alors que leur mouvement prend de l'ampleur. Un mardi noir a été lancé par des syndicats ce matin. On compte 170 lycées perturbés, dont une soixantaine bloqués. Les bloqueurs réclament l'abandon de plusieurs réformes. Dans la manifestation à Paris, Cécile de Kervasdoux a rencontré le secrétaire général du syndicat majoritaire chez les lycéens, l'UNLSD, qui appelle à manifester et à bloquer les établissements.
La question, c'est pas de se dire est-ce qu'un parti politique doit récupérer tout ça. La question, celle-là, elle ne se pose pas, puisque c'est les lycéennes et les lycéens qui décident de manière souveraine de se mobiliser. Donc après, bien évidemment, il y a des revendications qui sont politiques. pour rappel, hein, c'est sur toutes les questions du pouvoir d'achat, les transports gratuits, les manuels scolaires, enfin tous les coûts cachés de l'éducation, et alors qu'elle est censée être gratuite justement. Après, ce qu'on demande, c'est le retrait de la loi orientation et réussite des étudiants, qui instaure une sélection sociale en fait, et le bac 2021 qui accentue le phénomène de sélection qui passe de la terminale, du coup, à la fin de la seconde. Enfin bref, toutes les mesures qui sont injustes à l'heure actuelle et qu'on souhaite changer. Ça fait 20 ou 30 ans qu'on n'arrête pas de nous bassiner avec des mesures qui sont faites contre nous. La sélection à l'université, nous, on l'a pas demandé. Et après, il y a Macron qui nous fait la leçon en nous disant qu'on n'est pas démocratique. Mais je le répète et je le dis, la démocratie, elle est ici. Elle se fait pas au palais de l'Élysée.
Bonjour Cécile de Carvaz-Douai.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en direct à Saint-Michel, d'où la manifestation des lycéens vient, le cortège vient de s'ébranler et qu'il y a quelques milliers de manifestants.
Oui, environ, enfin en tout cas moins de 5000. Et c'est une manifestation pour l'éducation, gratuite pour tous, français ou étrangers. Hein. Je n'ai trouvé qu'un seul gilet jaune. Là, on est vraiment dans une manifestation d'éducation. Le modèle éducatif français, c'est l'universalité, m'ont répété des étudiants de la Sorbonne qui viennent de se joindre hein, aux lycéens, eux-mêmes encadrés par des professeurs qui s'opposent eux aussi à la réforme du lycée et du bac. L'universalité, parce que la réforme du lycée, explique les élèves et leurs profs, est une réforme libérale qui veut nous mettre dans des cases pour avoir un emploi, certes, mais qui nous prive par là même des humanités. L'universalité, parce que Parcoursup, brandit une lycéenne, ça me donne mon bac, oui, mais pas une fac. L'universalité, disent les étudiants de leur côté, parce qu'imposer des droits plus chers à la fac pour des étudiants étrangers, c'est contraire à la tradition de toute l'éducation française qui attire les étudiants du monde entier. Macron, t'es foutu, la jeunesse est dans la rue. Le slogan est chanté à tue-tête hein, dans la manifestation et ils font du bruit les lycéens comme les étudiants, pour attirer l'attention du gouvernement. Ils chantent un pas en avant, un pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Et ils sont furieux, vous l'avez dit, de ne pas avoir été entendus par Emmanuel Macron, de ne pas avoir été cités lors de l'allocution télévisée du président de la République hier. Ils seraient trop jeunes pour avoir un avis, s'interroge-t-il avec cynisme. Les lycéens, en tout cas, comptent bien se faire entendre aujourd'hui. Ils ont rendez-vous à 15h cet après-midi au ministère de l'Éducation et se dirigent actuellement d'abord vers le ministère de l'Enseignement supérieur.
Merci à vous Cécile de Carvaz-Douai, merci également à Marcos Darras à la technique. L'emploi salarié en hausse de 0,1% en France au troisième trimestre. Les chiffres viennent de l'INSEE. L'économie française a ainsi créé 15 000 emplois nets. Bonjour Thomas Larabie.
Bonjour Antoine Marais.
Il s'agit d'une hausse très modérée car l'emploi en fait recule dans la fonction publique. Hein.
Oui, 7 400 emplois de moins pour le dernier trimestre. Un total de moins 22 000 sur un an pour la fonction publique. La politique d'austérité du gouvernement continue. Alors ces chiffres, s'ils agacent les syndicats de fonctionnaires, ils ne les supprennent pas, puisqu'au moment de son élection, Emmanuel Macron avait en effet fixé l'objectif de 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique d'État comme dans la fonction publique territoriale. Et pour Olivier Buisse, secrétaire fédéral à la Fédération Générale des Fonctionnaires Force Ouvrière, cette baisse de l'emploi public n'est en réalité que la partie visible de l'iceberg.
Quand on dit l'emploi public baisse, il faut mesurer qu'en fait l'emploi statutaire, l'emploi qui n'est pas précaire, diminue encore plus que ce qui est annoncé, parce que la part des emplois précaires augmente au détriment des emplois statutaires. Donc on est dans une logique de diminution globale de l'emploi et de précarisation des agents publics qui exercent tous les jours le service public.
Selon l'UNSA, il y a aujourd'hui 1 million de contractuels dans la fonction publique et ce chiffre est amené à grandir, si l'on en croit Emmanuel Macron, un président qui n'a pas dit un mot hier des services publics, autre grand oublié de sa prise de parole sur le pouvoir d'achat. Une erreur de plus pour Olivier Buisse.
Là, on est sur une annonce d'une hausse pour le SMIC, mais qu'est-ce qui va se passer dans la fonction publique? La réponse adéquate, ce serait d'augmenter le point d'indice. Or, c'est pas ce qui est annoncé. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les agents publics qui sont au niveau du SMIC, ou presque?
Le président de la République devait s'exprimer demain sur la fonction publique et la réforme de l'État. Cette prise de parole est finalement reportée en début d'année prochaine, officiellement, pour que les agents puissent rester au plus proche de leurs administrés dans ce climat social électrique.
Merci à vous, Thomas Larabie. Midi 49 sur France Culture, dans l'actualité internationale, la tournée de Theresa May auprès des dirigeants européens. La première ministre britannique sollicite aujourd'hui l'aide notamment d'Angela Merkel dans le but d'aménager l'accord du Brexit et d'éviter en fait une sortie désordonnée du Royaume-Uni de l'Union européenne. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour Antoine.
Vous êtes notre envoyé spécial à Londres. Alors, la Chambre des communes, on vient de l'apprendre, va se prononcer avant le 21 janvier sur le projet d'accord de Brexit. Comment sont perçues sur place les tentatives de Theresa May de négocier le Brexit avec ses homologues européens?
Alors, son attitude est surtout qualifiée de lâcheté pour les uns, de défaite humiliante pour les autres. C'est vrai que les journaux étrient ce matin l'attitude de cette Theresa May, son faux bond fait aux députés. Pour le Daily Mail, ce report du vote est une extraordinaire reculade, quand dans un style plus imagé et plus brutal, le Sun explique que la première ministre se retrouve, je cite, « farcie comme une dinde de Noël, car May s'affole », dit le Aïe, et cette visite éclaire aujourd'hui à ses partenaires européens. Ne suscite pas de commentaires beaucoup plus encourageants. C'est sa tournée de la dernière chance, une tentative désespérée, dit le Guardian, pour sauver ce texte que le Parlement britannique refuse en l'état de ratifier, car son seul plan B, finalement, c'est de gagner du temps.
Alors qu'est-ce que Theresa May peut espérer de cette rencontre ?
Alors, peu de choses, à vrai dire. Sa première étape l'a menée ce matin aux Pays-Bas, très proche allié du Royaume-Uni. Les Néerlandais l'ont donc accueilli avec beaucoup de sympathie. On ne va quand même pas lui refuser une tasse de café, a glissé le ministre des Affaires étrangères. Pour le reste, ce sera plus difficile. On verra ce que lui dira effectivement Angela Merkel tout à l'heure. Mais à Bruxelles, par exemple, on sait déjà que Theresa May devra vraiment mettre le pied dans la porte. Les présidents de la Commission et du Conseil, Jean-Claude Juncker et Donald Tusk, ont utilisé les mêmes mots. Pas question de renégocier le fond d'un texte arraché dans la douleur après 17 mois de discussion. Cet accord est le meilleur qui soit. Seules des clarifications, des rediscussions à la marge sont possibles. Le point d'achoppement, vous le connaissez, c'est toujours cette question de la frontière nord-irlandaise. Theresa May voudrait obtenir des assurances légalement contraignantes sur le fait qu'après le Brexit, son pays ne restera pas prisonnier de ce qu'on appelle le filet de sécurité, ce territoire douanier unique qui sera mis en place avec l'Union. C'est l'une des plus grandes inquiétudes des partisans du Brexit. C'est un objectif raisonnable qui semble à portée de main. Reste à savoir s'il sera suffisant pour convaincre les députés britanniques de suivre leur chef de gouvernement. Il est aussi dans l'intérêt des Européens de faire accepter ce texte, et vous le disiez, plutôt que de prendre le risque d'une sortie désordonnée de l'Union, une sortie sans accord. Scénario de plus en plus probable d'ailleurs, auquel la France et les autres pays européens se préparent désormais.
Merci à vous Isabelle Labéry. Peut-être un assouplissement de la dictature en Thaïlande. La junte militaire au pouvoir depuis maintenant plus de 4 ans a levé l'interdiction de mener des campagnes politiques. Cela faisait des mois que la classe politique réclamait cette mesure, alors que des élections sont promises pour début 2019, Omar Waman.
Eh bien, si c'est comme ça, je prends le pouvoir. C'est en ces termes que le chef de l'armée thaïlandaise, Prayut Chan-o-cha, s'est exprimé le 22 mai 2014 à Bangkok, après plusieurs mois de blocage politique et d'instabilité. Le même jour, la constitution est suspendue, un couvre-feu est instauré et les rassemblements interdit. Une chape de plomb qui aura duré plus de 4 ans. Mais si les militaires ont fini par lever l'interdiction de mener campagne en vue des prochaines élections, a priori le 24 février 2019, ils ont bien pris soin de faire rédiger une nouvelle constitution, un texte qui leur est favorable et qui surtout prévoit un contrôle renforcé des députés qui seront élus. Plusieurs fois repoussés, ce scrutin devrait voir émerger de nouveaux visages. Ils vont tenter de supplanter les personnalités qui dominent la vie politique thaïlandaise depuis près de 20 ans, notamment les figures du parti Pui Thai qui a remporté toutes les principales élections depuis 2001. Mais il reste une inconnue, le rôle de l'armée. La junte militaire fait campagne depuis des mois, notamment dans les zones les plus reculées de la Thaïlande. Son chef, Prayut Chan-o-cha, n'est pas prêt à abandonner le pouvoir.
La ministre française des armées, Florence Parly, est arrivée hier à Bangui pour une visite de 2 jours. C'est la première visite de la ministre en Centrafrique après 2 annulations, l'occasion pour elle de réaffirmer l'engagement de la France auprès des Centrafricains, alors que depuis une petite année, la Russie est omniprésente dans le pays. À Bangui, le reportage de Saber Gentoubi.
Les Russes sont visibles partout. Humanitaires, tournois de foot, concours de Miss, lancement d'une télé-réalité. Ils ont même créé et subventionné une radio.
Certaines personnalités de l'entourage politique du président Touadéra, c'est vrai, en effervescence, en fonction de la colère de Paris. Alors faut-il comprendre que le danger peut surgir aussi au sein de l'entourage politique du président Touadéra.
Tout est possible, nous sommes sur le terrain politique. Tu n'as pas affaire à des enfants de cœur.
Même tendance sur les réseaux sociaux où quelques influenceurs seulement modèrent des dizaines de pages Facebook et des blogs, souvent anti-français, anti-France-Afrique, anti-France-CFA, pour la plupart des fake news copiés-collés dans la presse nationale tous les matins. Yannick Nalimo, journaliste centrafricain.
Et si quelqu'un veut que la presse centrafricaine parle de ses activités, toute activité, couverture, nécessite souvent des intéressements pour les journalistes.
Intéressement, c'est quoi?
Intéressement, c'est donner des conditions de travail, parce que la plupart des médias, excepté les quelques médias d'État, les autres ne sont que des privés. Pour que les journalistes puissent subsister, il faut les intéresser.
Mais les véritables activités russes dans le pays restent très opaques. Du côté des mines d'or et de diamants, par exemple, l'attribution des concessions doit être validée par le bureau de l'Assemblée nationale, des décisions qui devraient être publiées au journal officiel. Or, aujourd'hui, impossible d'avoir accès à ces documents.
Beau temps cet après-midi sur l'ensemble du pays, ou presque. C'est le soleil qui dominera partout, sauf en Bretagne. Les températures restent fraîches, 5 degrés à Dijon, 7 à Paris, 10 à Brest, 14 à Ajaccio. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 18h avec Aurélie Kiefer.